les informations à Dia Chipoukou.
Mesdames et messieurs, bonjour. Kofi Annan optimiste quant au déroulement de la transition. Pour le secrétaire général des Nations Unies, de remarquables progrès ont été accomplis sur le plan politique en RDC. Kofi Annan l'a dit dans un point de presse tenu hier au Grand Hôtel Kinshasa. C'est confirmé, le président Joseph Kabila est candidat à sa propre succession. Il l'a dit hier au cours d'une conférence de presse tenue devant 5 journalistes de la presse nationale. Une cinquantaine de compagnies aériennes congolaises interdites de voler sur l'espace européen. Parmi eux, Wimbidira Airways, Malou Aviation, Transair Cargo Service et TMK. Réaction du ministère de Transport congolais dans ce journal. Encore une fois, bonjour. De remarquables progrès ont été accomplis sur le plan politique en RDC, mais il reste beaucoup à faire car il faut des élections libres, transparentes, inclusives et sécurisées. Le secrétaire général des Nations Unies est revenu sur ce sujet au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUC qu'il a animée hier soir au Grand Hôtel Kinshasa au terme de son séjour de 48 heures dans la capitale de la RDC. Kofi Annan a évoqué la question du calendrier électoral avec les représentants de la classe politique dont Étienne Tshisekedi de l'UDPS et avec le président de la CEI, l'abbé Malou Malou. Le secrétaire général des Nations Unies est au micro de Léonard Moulamba.
Ils sont en train de discuter entre eux. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et soulever la même question avec eux. Je les ai encouragés de s'organiser d'une manière qui peut permettre une élection inclusive. Il y a des gens qui estiment que le 30 juin est trop tôt, qui estiment que peut-être les partis n'ont pas eu l'occasion de soumettre les noms de leurs candidats, mais c'est une chose qu'ils doivent discuter entre eux et se mettre d'accord sur un calendrier. Si ce n'est pas celle du 30 juin, quelle date? Mais ils doivent discuter avec M. Malou Malou, avec qui lui il était ouvert. Si la plupart parmi eux estiment qu'il faut changer les dates, ou bien arriver, etc., décider, ce n'est pas pour la communauté internationale d'imposer ça, on doit changer ça.
Il n'y a pas d'équivoque, le président Joseph Kabila est candidat à sa propre succession. Il l'a dit hier au cours d'une conférence de presse tenue devant 5 journalistes de la presse nationale. On l'écoute.
Effectivement, le président Joseph Kabila sera candidat aux élections présidentielles. Et le président Kabila sera le candidat de tout le monde, de tout le peuple. J'aimerais bien que ce soit tout à fait clair, le candidat de toute la nation. Suite à la demande de plusieurs partis politiques, de personnalités qui m'ont écrit, la population elle-même.
Au cours de cette conférence de presse, le président de la République, Joseph Kabila, a répondu à d'autres questions d'actualité, notamment en ce qui concerne le cas Minembwe que le RCD voudrait voir érigé en territoire et le cas de l'UDPS qui demande la réouverture des bureaux d'enrôlement. Pour Minembwe, le président de la République a affirmé qu'il n'est pas habilité à signer un décret pour ce faire. C'est une procédure administrative qui dépend de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée provinciale. Pour l'UDPS, il a répondu que le problème est du ressort de la commission électorale indépendante. Dans le registre humanitaire, la situation des défenseurs de droits de l'homme en Afrique s'est aggravée en 2005, en République démocratique du Congo notamment. C'est ce que révèle le rapport annuel de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT. Ce rapport publié le 22 mars dernier souligne que les libertés de réunion, de manifestation et de rassemblement restent largement bafouées sur l'ensemble du continent africain. Je suis au téléphone par René Kapita, le président de FIDH. Saba Sidiki explique le cas de la RDC.
Dans les pays en crise, comme la République démocratique du Congo, on avait connu des violences qui ont fait énormément de victimes. Et si l'on doit prendre compte de ces 8 années à peu près de guerre, on peut dire que les victimes sont énormes, celles qui sont directement liées à la guerre et celles aussi comme appelées comme dommages collatéraux. On dénombre près de 3 millions de morts. Concernant les défenseurs des droits de l'homme, nous avons le cas d'assassinat des deux défenseurs des droits de l'homme et aussi de certains qui ont été contraints de partir, comme Paul Sapou, que nous avons pu expulser, qui se trouve actuellement en Belgique. L'exercice des libertés est très difficile dans ce pays. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la question de la République démocratique du Congo est déférée devant la Cour pénale internationale. Je pense que certains dirigeants haut placés ont des soucis à se faire. Ils ont eu, à travers leur milice, à mener des actions contre les populations civiles et contre des personnes que nous considérons comme des défenseurs des droits de l'homme.
Justice, les magistrats devront vaincre les réticences quand ils doivent dire le droit. Cette recommandation ressort du séminaire de formation pour magistrats organisé à Kindu par l'ONG internationale Avocats sans frontières. Cela dans le but de lutter contre l'impunité, surtout les infractions en rapport avec les violences sexuelles. Maître Jean de Dieu Kiyoni, assistant de projet auprès de l'ONG internationale Avocats sans frontières, au micro de Jean-Serge Chindani.
Aux magistrats civils et militaires de la province du Maniema, tout ce que nous leur demandons, c'est de sortir de leurs réserves, de vaincre les réticences chaque fois qu'ils doivent dire le droit, puisqu'ils ont été outillés à travers les modules qui ont été animés à leur intention. Tout ce que nous espérons après ces séminaires, c'est qu'ils vont sans désemparer appliquer le droit interne et les droits internationaux lorsqu'il s'agit des conventions régulièrement ratifiées par la République démocratique du Congo sur les droits de l'homme. Les magistrats congolais sont invités à les appliquer dans toute leur rigueur, sans atermoiement et sans complaisance.
Enseignement primaire et secondaire, les coordinations des écoles conventionnées dénoncent la décision du ministre de l'enseignement primaire et secondaire, celle d'avancer la date de dissertation pour l'examen d'État au 9 avril au lieu du 21 mai tel que prévu par le calendrier de l'enseignement pour l'année en cours. Dans une lettre adressée au ministre de l'EPSP, les représentants des coordinations des écoles conventionnées demandent à Paul Moussafiri de respecter le calendrier réaménagé en vue de récupérer le mois perdu au début de l'année à cause de la grève des enseignants. On écoute l'abbé Georges Moutipaï, coordinateur national des écoles catholiques en RDC.
Il s'est fait que depuis un bon bout de temps, on prend des décisions au plus haut niveau sans que nous-mêmes nous soyons consultés ou nous soyons au courant en rapport avec le fait qu'on a avancé la date de la dissertation. D'après le calendrier réaménagé, il était question de récupérer au moins le mois de la grève qui avait été déclenchée au début de l'année. Mais il se fait qu'au lieu de récupérer ce mois, on fait perdre aux enfants un mois et demi. La dissertation était fixée au 21 mai et tout d'un coup, nous apprenons de la base que la dissertation va être faite le 9 avril. Cela nous a fait tiquer. L'année passée, les frais de participation à la dissertation étaient, en fait, sur toute l'étendue de la République, de 2500 francs. Mais aujourd'hui, nous apprenons, ce matin, Bakongo me parlait de 8000 à 10000 francs congolais. Or, nous ne sommes pas là pour du replaçage. Nous voulons un travail bien fait.
Pour le ministre de l'EPSP, l'information du système d'enregistrement des résultats est l'une des raisons pour laquelle la date de la dissertation a été avancée. Paul Moussafiri a aussi souligné que cette date permet aux élèves de passer cette épreuve dans de bonnes conditions. Paul Moussafiri au micro de Astrid Mujinga.
La raison, c'est que les épreuves que les enfants vont passer en hors session, comme on l'a dit, l'épreuve de dissertation, il n'y a pas de matière nouvelle que les enfants vont voir pendant ces mois, n'est-ce pas, pour justifier qu'on retarde cette épreuve. Nous disons ici, je viens de le dire, que nous sommes engagés dans l'informatisation de l'examen d'État. Nous voulons capitaliser le temps d'enregistrement dans nos machines des différents résultats des épreuves d'hors session. Et nous ne voulons pas aussi que les examens se passent comme ça s'est passé avant, dans un désordre total. Nous voulons que cette fois-ci, pendant que les autres enfants sont en vacances, que les salles sont vides, que les enseignants sont libres, qu'on fasse passer l'épreuve. Plutôt que de faire la cacophonie, certains en train d'étudier, d'autres enseignants contrôlent et les interrogations des enfants et l'examen d'État. Non, il faut éviter ça. Ce sont ces genres de situations qui favorisent la fraude. Nous voulons que les enfants, calmement, passent l'épreuve dans un environnement sain pour permettre qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Une cinquantaine de compagnies aériennes congolaises interdites de voler sur l'espace européen. Leurs noms ont été repris sur une liste noire de 92 compagnies publiées le samedi 25 mars dernier par la Commission de l'aéronautique européenne. Parmi ces compagnies congolaises, on retrouve Wimbidira, Malou Aviation, Transair Cargo Service, TMK. La majorité sont des compagnies de ligne intérieure. Certaines ne volent plus depuis un certain temps. D'autres ont même été déjà interdites de vol par le ministère des Transports. Ewabora est la seule compagnie congolaise à échapper à cette mesure. Je vous propose d'écouter la réaction du conseiller juridique du ministre des Transports. Monsieur Léon Kaseya a été joint au téléphone par Claude Boussé.
Nous nous réjouissons d'abord que notre instrument désigné qui est Ewabora pour faire l'Europe n'est pas frappé par cette mesure. Ce qui nous fait réagir aujourd'hui, c'est le fait que l'Union européenne s'est occupée des compagnies qui ne concernent pas le trajet européen. Donc, on ne comprend pas, nous, par exemple, au niveau du ministère, quand nous avons traité les problèmes des compagnies aériennes, nous ne sommes pas allés traiter les problèmes des compagnies qui existent au Congo-Brazza ou dans des pays voisins. Alors, on ne comprend pas. Ça passe maintenant dans les médias tous les jours. C'est un peu un discrédit. Il y en a même d'autres qui ne volent plus depuis des ans.
Signalons que l'Union européenne a également indiqué qu'en RDC, les avions utilisés pour le transport de troupes pendant la guerre civile ont été reconvertis en appareils civils qui, même s'ils n'ont jamais volé dans l'Union européenne, sont susceptibles d'être utilisés en sous-traitance à n'importe quel moment. Restons dans ce secteur pour signaler la construction d'un nouveau tarmac sur la bande est de la piste de l'aéroport international de Goma. Et au même moment, une bretelle se construit pour relier les 2000 mètres restés utilisables de la piste de l'ancien tarmac. Ces travaux devront faciliter l'embarquement et le débarquement des voyageurs et du fret selon les normes internationales. Jules Ngala.
À l'aéroport de Goma, chaque compagnie aérienne possède son tarmac, mieux son parking, qu'elle exploite à sa guise. Les aéronefs stationnent pêle-mêle, chacun embarque qui il veut, les marchandises qu'il veut et au mieux de ses intérêts, une situation qui dure depuis l'éruption volcanique de 2002. Pour les responsables de la RVA Goma, les normes imposées en la matière par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ne sont pas respectées. Voilà qui explique les travaux de construction d'un tarmac qualifié de provisoire. À la MONUC Goma, on ne souhaite pas faire des commentaires sur le coût des travaux ni sur leur durée. C'est juste si le chef de bureau indique furtivement que les travaux ont pris du retard. Au même moment, les responsables de la RVA Goma ajoutent que le projet de réhabilitation de la partie de la piste rendue inutilisable par la lave est toujours d'actualité, pourvu que l'on trouve un financement. Et selon des spécialistes, il ne faut pas moins de 10 millions de dollars américains. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
À Kalemie, les habitants du quartier de l'hôpital effectuent depuis un mois les travaux de terrassiers sur la grande route de Kalemie. Ils ont réussi à récupérer un nombre important de vieux câbles. Objectif, alimenter en électricité leur quartier privé d'électricité depuis 3 ans. Pour la SNEL, confrontée aux difficultés, la contribution des habitants est un exemple à suivre. François-Xavier Mibé pour le reportage.
Environ 20 hommes et jeunes gens déterrent depuis 3 semaines de vieux câbles de la SNEL sur la grande route de Kalemie. À ces travaux de prise en charge collective s'ajoutent aussi d'autres matériels apprêtés comme contribution des habitants à la réalisation du projet. L'initiative cible plus de 1500 personnes du quartier de l'hôpital 2 de Kalemie, privées d'électricité. Polydor Kilala Selemani.
La société n'ayant pas de matériel suffisant, nous avons acheté déjà 5 poteaux, 4 sacs de ciment, 500 mètres de fil, 48 isolateurs. Et puis, avec les travaux que nous sommes en train de faire, c'est ça notre contribution.
Pour la Société nationale d'électricité, la contribution des habitants a permis non seulement de réduire les dépenses grâce à la main-d'œuvre moins payante, mais aussi de supprimer les journaliers. Le chef des districts SNEL, ingénieur Basselé Ekofamba.
Pour nous, ce sont des clients qu'on n'avait plus dans le réseau. C'est un exemple à suivre parce que la SNEL doit travailler en collaboration avec ses abonnés. Si la SNEL a autorisé de récupérer cela, c'est parce que c'est un nombre assez important de clients qui va quand même permettre à la SNEL d'augmenter ses recettes. Et en augmentant ses recettes, la SNEL pourra améliorer la qualité de son service.
La SNEL dispose actuellement d'un nouveau transformateur de 630 kVA capable d'assurer une couverture maximale d'alimentation électrique dans les secteurs de l'hôpital. François-Xavier Mibé, Radio Capi, Kalemie.
En page internationale, la nouvelle alliance de l'opposition zambienne est déterminée à empêcher la réélection cette année du président Lévi-Mwana Wassa, mais doit encore trouver un candidat unique pour l'affronter. L'Alliance démocratique unie UDA a été créée début mars par les 3 principaux partis d'opposition en vue des élections générales qui doivent avoir lieu cette année, mais dont la date n'a pas encore été fixée. Et puis 5 organisations centrafricaines de défense de droits de l'homme ont réclamé mercredi, lors d'une conférence de presse à Bangui, une meilleure protection des défenseurs des droits de l'homme en Centrafrique, qui sont selon elles en danger. Ces organisations affirment que le pouvoir a décidé de les mettre à l'index en raison de leur engagement contre l'impunité totale, désormais consacrée par le gouvernement centrafricain en faveur des autres auteurs de graves violations des droits de l'homme. C'est donc par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Sylvain Baougueré qui en a assuré la mise en onde. On se retrouve à 8h pour la prochaine édition en langue française.
Okapi, fréquence de la paix.